Bonjour. Nous allons commencer la semaine avec le livre de Josué. Je suppose que vous avez déjà lu de temps en temps quelque chose du livre de Josué, au moins un passage. Je ne sais pas si vous avez un portrait de ce livre, si vous l'avez encore en mémoire. Eh bien, nous allons essayer de voir ce qu'il y a dans ce livre. Et puisque je vous ai montré la fois passée qu'il y avait des discordances entre les archéologues et les biblistes, nous allons essayer dans la suite des cours de distinguer ce que les archéologues peuvent dire sur le passé d'Israël et s'ils peuvent reconstituer l'histoire d'Israël. Et puis nous nous interrogerons sur la manière dont les livres sont composés. Pourquoi écrit-on l'histoire de telle manière ? On écrit l'histoire de cette manière parce que ce que les prophètes, puisque ce sont des livres prophétiques, ont écrit sur l'histoire d'Israël, ce n'est pas l'histoire des événements. Ils ne veulent pas nous informer du tout sur les événements. Ils ont des événements qui traînent dans leur mémoire, que l'on sait passer de père en fils et de génération en génération, et qui ont été, sur le plan de l'exactitude des faits, déformés, bien entendu. Déformés, ou peut-être informés. Informés sur une autre réalité que celle de l'apparence, que celle des événements. Informés sur la réalité profonde. Car ce qui intéresse les auteurs de la Bible, c'est l'histoire d'une relation. C'est pour cela qu'on va donner comme titre, souvent à l'Ancien Testament, l'alliance entre Dieu et l'homme. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Mais il faut bien montrer que cette alliance s'est passée dans un cadre dit historique, c'est-à-dire dans le temps des hommes et dans l'espace des hommes. Et donc il faut un certain nombre d'accrochages dans cette histoire des événements, mais ce n'est pas là l'essentiel. Et donc c'est un peu à cela que nous allons essayer de nous former en découvrant ce qu'on appelle l'histoire deutéronomiste. J'ai une question justement qui se pose et qui me demande de définir complètement, précisément, le mot deutéronomiste. Le mot deutéronomiste vient du Deutéronome, du livre du Deutéronome, qui est le cinquième du Pentateuque, et il s'appelle Deutéronome, Deutéronomos, comme la seconde loi, c'est-à-dire la loi donnée au Sinaï, mais revisitée à la suite des temps, et explicitée non plus pour des gens qui étaient encore nomades, comme l'était la première Torah, mais pour des gens qui étaient devenus sédentaires et qui se trouvaient dans un royaume. Donc deutéronomiste vient de l'époque de Josias, c'est-à-dire vers les années 622 avant Jésus-Christ. Facile à retenir, 622 avant Jésus-Christ, réforme de Josias, donc revisitation de la Torah. Donc, composition du noyau, disons comme cela, du Deutéronome, et donc une autre loi que la première. Vous avez celle que vous découvrez dans l'Exode, au chapitre 20 à 22, et puis vous avez la revisitation, la réforme de Josias en 622. 622 avant Jésus-Christ, Josias, donc 7e siècle avant Jésus-Christ, et 622 après Jésus-Christ, l'Égypte. C'est Mohammed, c'est l'islam qui commence à vivre de son autonomie. Donc, ce qu'on appelle Deutéronome, donc c'est à partir de cette réforme de Josias, il y a davantage que par le passé une mentalité historienne, c'est-à-dire où le temps et la chronologie commencent à avoir un sens. Je dis commence, on n'est pas encore dans l'histoire au sens moderne du terme, mais on commence par avoir un fil conducteur, une finalité à cette histoire. Donc c'est une prospective en quelque sorte. Et ce qu'on appelle l'historien ou les historiens deutéronomistes, ce sont ceux qui, sous la mouvance, et à l'époque de Josias, Jérémie, même situation, et même époque. Donc, à cette époque-là, où on commence à avoir une mentalité historienne, une mentalité de récit suivant une chronologie, et l'historien deutéronomiste, ce qu'on appelle cela, c'est moderne évidemment, c'est cette école dépendante de la mentalité du deutéronome, cette école qui s'est mise à écrire l'histoire. Et à côté du livre du deutéronome, qui est plutôt un livre de discours et de loi, de Toroth, vous avez donc l'histoire, l'historien deutéronomiste, que l'on écrit souvent H, histoire, ou les Allemands disent Geschichte, ils mettent un G à la place du H, hein, histoire deutéronomiste. Mais on divise deutéronomiste en plusieurs couches rédactionnelles, mais nous n'entrerons pas là-dedans. Ce n'est pas l'essentiel. Donc voilà pour ce qui est de deutéronomiste, et nous allons voir que cette histoire deutéronomiste va depuis Josué jusqu'au deuxième livre des rois y compris. Alors j'ai parlé aussi d'une ligue historienne conservatrice. Peut-on dire qu'elle est sacerdotale? Oui. Donc il y a deux tendances que vous retrouverez constamment dans la Bible, et ces deux tendances sont concomitantes, hein, elles vivent ensemble, elles sont en quelque sorte complémentaires, ce que nous appellerions aujourd'hui la droite et la gauche. La droite conservatrice sacerdotale, le sacerdoce aime bien, hein, le cléricalisme aime bien de se replier sur lui-même, hein, ça lui donne en tout cas l'impression d'une certaine prestance. Et puis vous avez l'attitude plus deutéronomiste, c'est d'ailleurs la mentalité aussi du deutéronome, ouverte du côté social. Hein, le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'immigrant qui habite chez toi. Donc vous avez ces deux tendances, et ces deux tendances, vous les trouvez constamment en tension dans la Bible, comme aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut parler de couche rédactionnelle? Ouh, ça c'est une question qui était il y a encore 20 ans d'ici, et qui était à l'ordre du jour. On divisait toute la Bible à la fois, enfin la Bible, pas les prophètes, mais la Torah et les livres prophétiques, on les divisait en quatre couches rédactionnelles. Celle qui parle de Dieu en termes de Yahvé, mais Yahvé ne rime absolument à rien, pas plus que Jéhovah. C'est le mot qui s'écrit Yod-Hé-Vav-Hé et qui vient probablement d'un ancien hébreu, Yah-O-Hu-Lui. On ne définit pas, on ne lui donne pas un nom. C'est lui, c'est le nom, c'est le saint. Vous voyez, on lui donne des titres, mais ce n'est pas son, Mais on désigne par cela, les quatre termes, le tétragramme, on désigne la présence. La présence au-delà du nom. Tandis que le nom plus commun pour dire Dieu, c'est Elohim, c'est-à-dire la divinité. C'est un pluriel, mais qui un pluriel qui désigne un abstrait, la divinité. Mais cela va se développer par après. Et donc on divisait en couches rédactionnelles, jusqu'il y a encore une dizaine d'années, on disait qu'il y avait une couche yaviste, qui semblait être la plus ancienne, et que l'on situait généralement à l'époque de Salomon. Et puis il y avait une couche éloïste, mais on n'en était pas très sûr quand même, de cette couche éloïste, où on appelait Dieu de préférence Elohim, la divinité, qui était probablement postérieure. Et puis on avait découvert, mais c'est un peu grâce à l'examen des textes eux-mêmes, hein, que les deux couches se mêlaient. Et on avait imaginé que lorsque la Samarie avait disparu de la carte parce qu'elle avait été prise par les Assyriens, hein, les Lévites qui étaient de Samarie, hein, les prêtres de Samarie, avaient été récupérés à Jérusalem, et là, ils avaient amené aussi leur tradition. Et puis après, on avait une troisième couche, c'était la réforme de Josias, deutéronomiste, vous voyez. Et puis on y avait rajouté une quatrième couche rédactionnelle, pensait-on, hein, on pensait les découvrir dans les textes, qui était sacerdotale. Mais en fait, on s'est aperçu, par des études beaucoup plus précises, on s'est aperçu que c'était un peu caricatural de dire les choses comme cela. Et on s'est aperçu de plus en plus qu'il y avait des quantités de traditions, qui avaient, à tradition orale la plupart du temps, qui avaient été amalgamées. Il y avait des traditions propres à certaines tribus qui s'étaient popularisées en quelque sorte lorsque les tribus s'étaient rassemblées. Que nous dit maintenant le livre de Josué ? Si je vous pose la question comme cela, vous direz « Ah mais c'est l'entrée en terre promise !» Et si vous êtes, si vous vous laissez, aguicher par les titres d'une Bible moderne, vous direz « Mais c'est la conquête de la terre promise !» Attention à tous ces titres trompeurs. Hein. Ces titres sont trompeurs parce qu'ils disent des choses d'une manière très superficielle. Et donc, je lis, moi, le livre de Josué dans ma Bible de Jérusalem, « Conquête de la terre promise » tout au début. Et puis, j'ai des sous-titres, j'en ai 8, 9, et la première partie, c'était donc une conquête, la deuxième partie, répartition du pays entre les tribus. À partir du chapitre 13. Et c'est pas si mal, parce qu'à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 11, il y a effectivement, si on le lit un peu superficiellement, la manière dont les Israélites sont entrés en Canaan, sur un territoire cananéen. Et on se figure les choses comme cela, et d'ailleurs, la plupart du temps, dans les vieilles cartes que vous trouverez dans les livres, c'est comme ça que c'est encore écrit. Et puis, à partir du chapitre 13, il y a la répartition des tribus. Mais ne nous y trompons pas. Cette répartition du pays, c'est-à-dire le cadastre, donc il y a une histoire, première partie, 2 à 11, égale histoire, alors je vais mettre de la conquête, mais je vais mettre un grand point d'interrogation, conquête. Et nous allons voir tout de suite pourquoi. Donc ça c'est un bloc. Et puis vous avez un autre bloc, 13 à 21, chapitre 13, c'est le cadastre. des tribus. Je mets des 12 tribus. En fait, les 12 tribus n'existaient pas encore. Une première réunion de quelques tribus a existé à l'époque de David et Salomon, nous y reviendrons plus tard, un premier noyau, mais c'est du temps de Josias surtout que la confédération des 12 tribus a véritablement pris naissance. Alors, pourquoi en parle-t-on déjà ici? Pourquoi en parle-t-on déjà dans le désert? Ah, ça, c'est la manière d'écrire l'histoire des Israélites, d'écrire leur propre histoire, puisque c'est l'histoire de l'alliance de Dieu avec l'homme et des vicissitudes de cette histoire, tout était déjà en germe. Dans le petit enfant qui est dans le sein de sa mère, il y a déjà tout l'homme en germe. Il est déjà là. Et donc, on peut déjà, quand on connaît toute sa vie après, on peut déjà dire, mais tout se trouvait là, dès le départ. Et c'est un peu cela qui nous déroute. Parce que nous prenons les choses comme argent comptant, alors qu'elles nous disent l'élaboration intérieure d'une expérience, de l'expérience de Dieu, à travers une histoire tout à fait normale. Et si nous regardons l'histoire telle qu'elle se passe aujourd'hui, c'est la même chose. La présence de Dieu est là, elle est la chose essentielle, mais ce n'est pas la chose qui préoccupe la plupart des gens. Alors, voilà deux blocs. Le premier bloc, chapitre 2 à 11, nous intéresse parce que c'est le récit, un récit d'implantation. Ah, j'ai déjà passé de conquête à implantation. Il y a quand même quelque chose de véritable, c'est que des tribus nomades se sont implantées dans un territoire qui était déjà plus ou moins sédentarisé, mais qui n'était pas un pays, qui n'était pas un royaume, qui était de petites entités. Et on appelait ce territoire, enfin en tout cas la Bible l'appelle, Canaan, des Cananéens. Les Cananéens, c'était différentes tribus qui s'étaient rassemblées autour d'un point d'une ville. Une ville particulière. Mais des gens qui étaient déjà sédentarisés et qui avaient des temples à leurs dieux. Chacune de ces tribus avait ses dieux propres, hein, qui semblaient avoir une certaine efficacité dans la vie du peuple. Et arrivent, et à des époques diverses, arrivent d'autres tribus nomades qui viennent s'implanter, et vous voyez encore aujourd'hui une situation en tout cas analogue, des Israélites, des Juifs qui viennent s'implanter dans des territoires palestiniens qui étaient occupés par des Arabes depuis très longtemps. Ils viennent s'implanter. Et donc il s'agit d'une implantation de tribus nomades qui ont un passé, et ce passé va être raconté. Mais ces tribus nomades viennent de points divers et de situations diverses. Implantation dans un pays déjà sédentarisé, qui a déjà ses dieux. Et des gens qui viennent du désert et qui ont leur expérience propre et qui ont aussi leur Dieu. Vous voyez le petit problème intérieur qui se pose. Tiens, est-ce qu'un Dieu qui avait une certaine efficacité dans le désert, dans un territoire sédentaire, est-ce qu'il sait encore comment faire? ce qui procure encore la nourriture de la même manière. Ah ben voilà. Et donc il va y avoir dans la perception intérieure des rapports avec Dieu des modifications. En même temps, la vie quotidienne existait et le progrès artisanal évoluait constamment. Et on passait de l'âge du bronze à l'âge du fer. Le bronze, qui est ce mélange de cuivre, d'étain, de fer, hein, il n'est pas encore purifié, à l'âge du fer qui était plus solide, le fer de lance. Hein. Et justement, le fer était important pour travailler la terre, pour sculpter, etc. Et aussi pour se battre. Donc, vous voyez, c'est une mentalité qui petit à petit se change, de génération en génération. Bon. Alors, vous savez bien que la première partie, la conquête du pays, est centrée autour de Jéricho. Ah. Jéricho. Jéricho que vous trouvez encore dans les Gospels, etc. Jéricho. La prise de Jéricho. Et ça a fait couler de l'encre, cette prise de Jéricho. Parce pourquoi ? Mais parce que c'est une des trois villes les plus anciennes connues. Il y a Jéricho, et puis il y en a une en Syrie, et puis encore une en ce qui est maintenant la Turquie. Trois villes qui date de 7000 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'une ville ? Ah, une ville, c'est déterminé par l'archéologie. Une ville, c'est un territoire qui n'est pas, où les maisons, les habitations ne sont pas disséminées, mais où elles sont entourées de murailles. Ville et muraille sont liées. Et souvent, ville est lié à muraille et à temple. Temple païen ou dieu de la région. Mais muraille, et ça c'est très important, les murailles de Jéricho sont importantes. Et effectivement, on a fouillé à diverses époques la ville de Jéricho, évidemment, pour découvrir les murailles qui sont tombées lorsque Josué est arrivé à la ville et a fait sonner cette trompette, cette fameuse trompette de Jéricho, qui n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas encore de trompette à l'époque. Il y avait des cornes de bélier, mais pas les trompettes thébaines. Hein. Bon. Et donc, oui, parce qu'il faut dater cette prise de Jéricho de plus ou moins 1200. Avant Jésus-Christ, plus ou moins. Bon, donc on a essayé de fouiller cette ville, et on est arrivé jusqu'au sol vierge. C'est comme ça qu'on sait que, hein, 7000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà une petite cité avec un tracé de mur. Mais en 1200, avant Jésus-Christ, on n'a pas trouvé de muraille. Et tout ce qu'on trouve de cette époque de 1200, là, ce sont les archéologues, l'archéologie est fort utile, parce que l'archéologie nous donne des points de contact et donc nous permet une certaine critique de la manière dont nous croyons les événements, dont nous les prenons en charge. Et on n'a pas trouvé de muraille de Jéricho. Et manque de peau à côté de Jéricho. Il y a une autre prise dans le livre. C'est la prise de Haï. Et Haï signifie la ruine, les décombres. Et ces deux villes, à l'époque de 1200 avant Jésus-Christ, où on situait généralement l'arrivée des Israélites en Canaan, n'existe pas. En tout cas, archéologiquement, il n'y a pas de traces. Alors, certains archéologues ont dit, mais oui, c'est que tout ça a déjà disparu. Hein, c'était des murailles de briques. Et de fait, il y a des murailles de briques, mais plus anciennes, du bronze ancien et du bronze récent, mais qui ont été trouvées. Et donc, ça fait toute une dispute entre les archéologues.
Alors quoi ?
Conquête. Et si on raconte cette histoire, chapitre 2 à 11, avec la prise de Jéricho, les espions qui ont été envoyés avant pour découvrir quoi ? Ce qui était à l'intérieur d'une ville qui semble ne pas avoir existé à cette époque-là. Il y a eu une ville avant, et puis il y a eu des moments où la ville a été abandonnée. Et justement, vers les 1200, pendant à peu près 200, 250, peut-être 300 ans, la ville a été abandonnée. Alors, on s'est demandé de quoi il s'agissait. Est-ce que la Bible avait raison ? La Bible dit-elle vrai ? Et je vois encore, par exemple, aux origines d'Israël, quand la Bible dit vrai, elle ne dit pas exact, mais elle dit vrai. Alors, archéologiquement, il faut se demander qu'est-ce qu'on trouve. On trouve donc une ville et peut-être une autre qui n'était que des ruines. Bon. On trouve quand même un certain nombre de vestiges et d'après le texte, si on le lit de manière rapide, on voit que les Israélites entrent par le milieu de la terre et puis prennent le pays, Jéricho et tout ce qui est autour, puis descendent dans le sud, se divisent en deux branches, une qui va vers le sud et qui prend le sud, ou qui va s'installer, qui va s'implanter dans le sud, et puis une autre qui va s'implanter dans le nord. Ça, ce sont les chapitres 2 à 11 qui vous racontent ça. Avec encore un pacte avec des Gabaonites. Et pour entrer à Jéricho, on utilise les bons soins d'une dame propriétaire d'un cabaret sur les murailles de Jéricho, un bordel, et là, les espions sont envoyés et recueillent un certain nombre de renseignements. En tout cas, ils sont préservés. Et parce qu'ils sont préservés, eh bien, Josué promet à cette dame que sa famille restera intouchée. On ne les passera pas au fil de l'épée, alors que toute la ville de Jéricho, on passe au fil de l'épée. Donc voilà un peu ce qui reste dans la perception que la plupart du temps nous avons lorsque nous avons lu le livre. Plus ou moins caricatural, bien entendu. Mais l'archéologie nous donne d'autres perceptions des choses. Toujours un peu hypothétique. L'archéologie travaille par comparaison avec ce qu'on a trouvé sur un site avec une chronologie bien déterminée, et généralement c'est l'archéologie de l'Égypte qui est la plus intéressante à ce sujet-là, parce que dans les différentes couches, quand on creuse, on fouille, on passe d'une couche à une couche plus ancienne, et souvent on découvre des scarabées. Et les scarabées sont au nom des rois égyptiens. Et là, on a une chronologie des rois des pharaons qui est assez précise. Donc là, on a une échelle. Il y a une autre échelle aussi, c'est la manière... il faut qu'on ait des monnaies, évidemment, à partir des Grecs, puis des Romains, on a des monnaies, alors ça devient plus intéressant. Mais enfin, il faut encore que les pièces de monnaie ne soient pas tombées plus bas, quand on fait des fouilles. Puis alors, on a la poterie. la manière dont, on façonne la poterie dont on se sert pour, quotidiennement pour les travaux culinaires. Et alors les archéologues vous font trois hypothèses d'implantation dans le territoire cananéen, mise à l'épreuve des modèles conventionnels de l'installation des Israélites en Canaan. Je lis dans le livre de Dever, aux origines d'Israël. Modèle de la conquête. Est-ce que des villes ont été effectivement détruites vers cette époque-là? Finalement, on en a trouvé une, deux, peut-être trois, où on a des traces d'incendie, dont Hatzor, dans le nord, et fouillé par Yigal Yadin, un des plus grands archéologues d'Israël, mais on n'est pas sûr que ça a été incendié par les Israélites, mais pas sûr. Mais, modèle de la conquête. On dit par exemple que on n'a pas trouvé de traces véritablement, sûrement en tout cas, de destruction. Ce fait solidement établi, je lis, est évidemment de nature à en perturber plus d'un. Pour être honnête et par souci de prudence, je tiens à rassurer les lecteurs. Les dernières découvertes archéologiques ne disent pas qu'aucun conflit militaire n'a accompagné l'émergence d'Israël en Canaan. Le fait de savoir qu'une partie des récits de la conquête biblique sont des fictions littéraires tardives ne signifie pas que toute l'histoire de l'ancien Israël soit une pure invention, comme le prétendent un certain nombre de révisionnistes. Parce qu'il y a une histoire intérieure. Et cette histoire intérieure n'est pas écrite dans les pierres. Alors, autre modèle, infiltration pacifique. Implantations qui ne sont pas toujours pacifiques. Hein, nous le voyons aujourd'hui, hein, quand une colonie israélienne va s'installer au milieu d'un territoire palestinien. Modèle d'infiltration pacifique, plus ou moins pacifique. Et ce modèle correspond assez bien à la réalité archéologiquement découverte. Assez bien. Pas parfaitement, mais assez bien. Mais il faut voir les fouilles de chacun des sites qui sont nommés. Il faut d'abord découvrir où le site existait, voir ce qui reste comme vestige, puis faire les comparaisons. Et là, vous avez évidemment les deux archéologues Finkelstein et Zilbermann, la Bible dévoilée, en fait, en anglais, c'est la Bible exhumée. Les nouvelles révélations de l'archéologie, et ils disent la même chose, archéologues. Nous verrons après, biblistes. Et alors, un autre modèle a été aussi, vous trouverez tous les détails, si vous le voulez, dans le syllabus, que vous pouvez trouver à l'accueil, mais dans ce syllabus, vous avez le syllabus de 2002, revu en 2008, et alors il y a des annexes. Et il faut toujours vous référer aussi à ces annexes qui sont une mise à jour. Et la plupart du temps, les livres que je signale sont dans la bibliographie des annexes. Et donc ces deux-là, ils sont encore, Finkelstein et Zilbermann sont encore plus révisionnistes, si vous voulez. Et voici ce qu'il dit. Qu'en fut-il réellement de cette conquête? En flagrante contradiction avec cette proclamation triomphale de victoire totale, le livre de Josué rapporte que de larges portions de territoire à l'intérieur même de Canaan, situées en dehors des zones distribuées aux tribus, restent à conquérir. Donc tout le territoire n'est pas aux Israélites. Elles incluent notamment tous les districts des Philistins. Et donc il y a encore, dans ce territoire dit israélite, il y a encore beaucoup de populations diverses. Dont les Gabaonites, dont un clan, le clan de Madame Rahab, qui avait introduit les Israélites en Terre Sainte. Nous y reviendrons. Donc voilà quelques données, je vous le donne superficiellement, les détails plus précis, vous les trouvez dans Syllabus, mais une vision des choses, pour essayer de la comprendre. Alors, cette conquête, qu'est-ce qu'elle signifie ? Pourquoi parle-t-on de conquête d'un pays ? Oh, l'histoire du pays est importante. C'est même finalement la signification profonde de ce livre de Josué. C'est quel est le rapport que nous avons avec la terre ? Je dis que nous avons, je suis passé au nous. Car ce qui est dit dans ce livre, ce n'est pas ce qui s'est passé autrefois, mais à partir de ce qui s'est passé autrefois et des souvenirs que l'on en a, on va vous raconter ce qui se passe aujourd'hui. Quel rapport avons-nous avec la terre ? Quel rapport avons-nous avec l'endroit où nous habitons ? Abraham, pour revenir sur ce vieux monsieur de la Bible, Abraham avait deux désirs profonds. Et il avait ces deux désirs parce que deux choses lui manquaient. Une terre et des enfants. Et justement, la Bible est faite, l'histoire d'Abraham est faite pour nous faire réfléchir sur le rapport, déjà sur le rapport que nous avons avec la terre, c'est-à-dire l'espace. Quelle place avons-nous dans notre espace ? Et Abraham était un SDF, hein, sans domicile fixe au départ. Donc il avait besoin d'un pied à terre, comme nous disons aujourd'hui, un pied à terre. Et il avait besoin aussi de pouvoir se prolonger dans l'histoire, c'est-à-dire dans le temps. Temps et espace. Monsieur Abraham avait déjà ces deux problèmes, ces deux désirs profonds. Et on va justement découvrir dans le livre de Josué le rapport de l'homme à l'espace. Ça se passe évidemment aussi dans le temps. Quel est notre rapport avec l'espace où nous habitons ? Est-ce que nous le possédons ? Est-ce que nous possédons notre appartement, notre maison ? Ou bien est-ce que nous le louons ? C'est pas pareil. Donc, et qu'est-ce que c'est que la possession d'une terre ou d'un pays ? Est-ce qu'on appartient à la terre ou est-ce que la terre nous appartient ? Hein ? Est-ce que la terre parle une langue ? Vous voyez, toutes ces questions qui sont des questions modernes, elles sont déjà présentes ici. Comment est-on introduit dans une terre ? Est-ce qu'il faut se faire place avec les coudes ? Ou bien est-ce que par un pacte, on peut arriver, hein, par un pacte de location par exemple, ou de possession, est-ce qu'on peut arriver à ces fins ? Et donc ce livre de Josué va nous raconter cela. Comment le raconte-t-il ? Eh bien, je vais lire quelques passages pour vous montrer comment cette histoire que nous essayons de nous rappeler ou de nous mettre en mémoire à partir de l'archéologie, comment le livre va-t-il s'en tirer ? Alors, je lis quelque chose que je n'ai pas cité, parce que ça vient de la rédaction du livre, ces deux blocs, 2 à 11, qui ont mis du temps avant de devenir un bloc, et de 13 à 21, qui était une situation du cadastre, probablement vers les 700, 600 avant Jésus-Christ, hein. C'est un cadastre beaucoup postérieur, qui a été replacé 600 ans en arrière. Justement, toujours le même principe, ce que vous trouvez à une époque avait déjà son germe 200, 300, 400, 600 ans avant. Donc on va le regarder dans le germe. Mais alors, il a fallu mettre une introduction. Un passage du livre du Deutéronome qui vient juste avant, à la suite. Puis il a fallu mettre une charnière, qui est le chapitre 12e. Hein, vous voyez, ici on a ajouté un chapitre 1, puis on a ajouté un chapitre 12, et puis il faut aussi bien terminer le livre, on a ajouté le chapitre 22, et puis 23, 24. Pour en faire un livre, et il faut toujours lire la Bible comme un livre, dans le produit fini. On peut se rendre compte comment ça, des différentes étapes de l'évolution, mais c'est le produit fini qui nous intéresse, c'est-à-dire le canon de l'écriture, tel que nous l'avons maintenant livré par la tradition. Donc ces chapitres, qui sont des charnières, sont évidemment intéressants, parce qu'ils nous disent le propos de l'auteur, ou des auteurs, en tout cas du rédacteur final. Parce que ces livres ont été finalement composés vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, composés comme livres, à partir donc d'éléments qui les précédaient. Je lis simplement pour vous montrer comment le texte va nous travailler cette mémoire. Après la mort de Moïse, rapport avec Moïse, serviteur du Seigneur, serviteur du Seigneur, ça ne se dit pas de n'importe qui, hein ? Le Seigneur parla à Josué, fils de Noun. Noun veut dire le poisson. Et Josué, Yoshua, veut dire le salut. Yasha signifie sauver. Mais sauver, attention, sauver en hébreu, ça veut dire restaurer quelqu'un dans sa dignité humaine. C'est ça, sauver. C'est en faire un véritable homme. Femme. Et lui dit, donc, après la mort de Moïse, le Seigneur parla à Josué, fils de Noun, et auxiliaire de Moïse, il était déjà, palefrenier de Moïse, parce que Moïse n'avait pas de cheval, il vient après les chevaux. Et lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Il est temps d'agir et de passer le Jourdain, que voici. Toi et tout ce peuple vers le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Je donne, mais c'est dans le texte hébreu, j'ai donné. Voilà, j'ai donné le pays d'Israël. Maintenant, on va le prendre. Là, c'est intéressant. Il a donné, mais va le prendre. Donc, ça veut dire qu'il y a un geste et de fait, hein, il faut passer le Jourdain. Ah, tiens. On passe le Jourdain comme Moïse a fait passer la mer des roseaux. Ce que Moïse a fait, Josué va le refaire, pour bien montrer la continuité. Vers le pays que je donne. Ah tiens, c'est Dieu qui possède le pays. Mais donc il peut librement disposer de ce pays et le partager. Ah tiens, la terre vient du Seigneur. Hein? Le pays que je donne aux enfants d'Israël. Israël, c'est Jacob. Hein? Alors, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai déclaré à Moïse. Depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, tel sera votre territoire. C'est précis et très imprécis. C'est du nord au sud, avec la mer à l'ouest. Personne, tout le temps de ta vie, ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc l'importance de découvrir que la foi de Moïse va devenir la foi de Josué et que la foi du peuple va être en continuité avec ce qui s'est passé au désert. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc c'est une promesse d'être avec. Alors, mais si vous lisez la fin du Deutéronome, le chapitre 34e, vous verrez que c'est une répétition. Donc celui qui a composé le chapitre 34e du Deutéronome est en même temps celui qui a composé le premier chapitre de Josué. Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Ah, maintenant on remonte. On remonte beaucoup plus loin. Il faut inclure maintenant Jacob, et avant Jacob, Abraham et Isaac. On fabrique maintenant une histoire unique. Seulement, sois fort et tiens bon pour veiller et agir selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes démarches. Donc ici, vous voyez, ça, ceci, c'est vraiment un texte de l'historien deutéronomiste. Et vous verrez que c'est le même style dans le Deutéronome. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir suivant tout ce qui est écrit. La Torah, qui était de rigueur au désert, elle continue de l'être. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Sois fort et tiens bon. Donc c'est une invitation à une force intérieure, une invitation à la foi en Dieu. C'est Dieu qui donne le pays, c'est Dieu qui a promis et qui tient ses promesses. Vous voyez, ça c'est intéressant. Sois donc sans crainte ni frayeur, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Ehyé, Asher Ehyé. À Moïse, chapitre 3 de l'Exode, 3:14. Je suis qui je serai. Je serai avec toi. Ça c'est la définition de Dieu. Dieu est celui qui est avec, qui fait alliance. Voilà, ça, c'est le chapeau du livre de Josué qui nous dit, c'est dans cet esprit-là qu'il faut le lire. Omni scriptura debet legi et o spiritu co scriptae. Toute écriture doit être lue dans l'esprit dans lequel il a été composé. Josué donna ensuite aux scribes du peuple l'ordre que voici. Il n'existait pas encore de peuple ni encore de scribe, à l'époque. N'en faites pas. Parcourez le camp, dites au peuple, faites des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain. Ah, ah, 3 jours. Et surtout 3 jours, signifie toujours un salut après une défaite, après une détresse, après une épreuve, de toute façon. Le 3e jour, est toujours le jour de gloire après les 2 premiers qui sont des jours de tristesse. 3e jour. Tiens, dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller occuper le pays dont le Seigneur votre Dieu vous donne la possession. Voilà. Et alors, il va parler à chaque tribu. Parce qu'il se fait qu'un certain nombre de tribus ont passé le Jourdain, et quand même, un certain nombre d'autres, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, sont restés à l'est du Jourdain. Donc, il faut expliquer tout ça. Il faut expliquer une situation ultérieure. Et alors, rappelez-vous ce que vous enjoignait Moïse, serviteur du Seigneur. Le Seigneur, votre Dieu, en vous accordant le repos, vous a donné ce pays-ci. Il vous l'a donné. Maintenant, il s'agit de le conquérir. Le don d'une conquête. La vie vous est donnée, vivez-la. Elle vous est donnée. Quant à vous, tous les hommes de guerre, vous passerez en armes à tête de vos frères et vous prêterez main forte. Hein, on va devoir combattre. Et voyez que ce qu'on appelle la guerre, et surtout ce qu'on appelle la guerre sainte, parce qu'on pense qu'il y a une guerre sainte dans le livre de Josué, on parle, la guerre sainte, c'est une parabole de l'acte de foi. La guerre, c'est que nous avons à combattre contre nous-mêmes. C'est comme le djihad. Hein, le djihad islamique, c'est la même chose. Mais la guerre intérieure, c'est une chose difficile. Surtout, difficile à exprimer. Alors, on préfère la guerre extérieure. On préfère anéantir les populations, hein, parce qu'elles sont idolâtres. C'est ce qui semble arriver dans le livre de Josué. Et donc, à partir de cette idée fondamentale, Dieu est avec vous, vous allez entrer dans un pays que vous ne connaissez pas. Et donc, il faudra découvrir ce que c'est qu'un pays où l'on ne vit plus de radia, comme dans le désert, mais où on vit de l'agriculture et de l'élevage. Et donc c'est une autre mentalité. Alors le gros problème, c'est ce Dieu qui était avec vous dans le désert, qui avait sa tente au milieu des autres, est-ce qu'il tiendra encore le coup quand on aura des habitations en dur? C'est pas évident, hein. Il va falloir éprouver son Dieu. Ah oui, éprouver son Dieu, ça c'est éprouver soi-même. Et ces populations, elles ont un autre Dieu. Elles ont d'autres dieux qui semblent, ces dieux-là, semblent avoir fait des prestations énormes autrefois pour ces populations, puisque ces dieux leur ont donné la fécondité, fécondité des troupeaux, fécondité des familles, de la femme, etc. Alors, ça va se bagarrer dans la tête, les idées qu'on a de Dieu. Et derrière donc tout cela, Dieu parle à Josué. Et Josué parle au nom de Dieu comme un vrai prophète qu'il est. Alors, mais seulement, un véritable prophète doit agir. Et agir dans la réalité concrète. Et quand on a devant soi une ville, mais je viens de dire que archéologiquement, elle n'existait pas. Oh oui, mais vous savez, de mémoire d'homme, 7000 ans avant Jésus-Christ, de mémoire d'homme, quand on vient de l'Est, Jéricho, c'est toujours la première ville par laquelle on passe. C'est tellement bien ça que Élie et Élisée vont précisément se succéder au même endroit. C'est tellement bien ça que Jean-Baptiste va laisser la place à Jésus à peu près au même endroit, du côté du Jourdain. Vous voyez, vous découvrez comment une trajectoire intérieure se fait de personnage à personnage. Typologie, Moïse, Josué, Élie, Élisée, Jean-Baptiste, Jésus. Et au pied des ruines de Jéricho aujourd'hui, vous avez encore la source d'Élisée, ou la source d'Élie, on l'appelle de l'un ou l'autre nom. Et quand Jésus va monter à Jérusalem, il passe à Jéricho. Il entre à Jéricho, puis il sort de Jéricho. Et vous avez le petit Zachée, notamment, là. Et donc, vous voyez comment l'Écriture va maintenant reprendre cette mémoire d'Israël plus ou moins précise, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est la réalité de l'expérience qui se fait et qui se prolonge de génération en génération. Alors on envoie des espions. Ah, bien, on va aller espionner. Et vous avez l'histoire, la belle histoire là, des deux espions, hein, au chapitre 2, qui vont à Jéricho. Et ils arrivent justement chez cette madame Rahab, qui devait être assez ample, parce que Rahab veut dire la large. Et qui les cache? Voilà. Voici que... Ah oui. Elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait entassées. Les gens du roi les poursuivirent dans la direction du Jourdain, vers les guets, et on ferma la porte dès que furent sortis ceux qui étaient à leur poursuite. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés, que Rahab monta vers eux sur la terrasse. Et écoutez bien ce que Madame Rahab dit. Elle leur dit, « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays et que vous faites notre terreur et que tous les habitants de cette région ont été pris de panique à votre approche. Car nous avons appris comment le Seigneur avait mis à sec devant vous les eaux de la mer des roseaux à votre sortie d'Égypte et ce que vous avez fait aux deux rois amorites de l'autre côté du Jourdain, à Sichon et à Og, que vous avez voué à l'anathème. » L'anathème, ça veut dire qu'on tue tout le monde, hein. En apprenant, le cœur nous a manqué. Et on ne trouve plus chez personne le courage de vous tenir tête parce que le Seigneur, votre Dieu, est Dieu aussi bien là-haut dans les cieux que sur la terre ici-bas. Voilà. Magnifique, hein. Une proclamation de foi. De cette madame, les prostituées vous pénétreront dans le royaume, vous précéderont dans le royaume de Dieu, dit Jésus. Hein. Il se souvient de cette histoire. Celle qui va donner la clé de la terre, c'est une dame, une prostituée qui habitait sur les remparts de Jéricho. Oui, mais elle ne demande la vie sauve, mais il faudra un signe. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre comme signe? On va mettre un fil rouge, hein, à la fenêtre de Madame Rahab, on va mettre une enseigne, quoi, un fil rouge. C'est de là que vient le fil rouge. Nous disons, il faut trouver un fil rouge, c'est-à-dire, il faut trouver le chemin, l'intention profonde du récit. Elle vient de Madame Rahab. Et on lui laissera la vie sauve. Mais voyez, voilà que Madame Rahab fait allégeance au Dieu d'Israël. Curieux, hein. J'ai appris tout ce qui s'est passé. Et le cœur nous a manqué, hein. On ne va pas résister. Mais ça dit quelque chose d'important, ça. Ce n'est pas la résistance physique qui est essentielle. C'est découvrir qu'il y a une présence de Dieu. Et quand les espions reviennent, eh bien... Nos deux hommes redescendirent de la montagne, passèrent le fleuve, se rendirent auprès de Josué, fils de Noun, à qui ils racontèrent tout ce qui était arrivé. On raconte ce qui est arrivé. Ils dirent à Josué, « Le Seigneur a livré tout ce pays entre nos mains, et déjà tous ses habitants tremblent devant nous. » L'important, c'est d'être fort et de tenir bon. Et alors, vous avez tous les préliminaires du passage du Jourdain. Il faut passer le Jourdain comme on a passé la mer Rouge. Il faut passer à travers l'eau. Oui, mais l'eau, c'est la mort. Eh bien, on va passer à travers la mort. Mais les eaux ne s'écartent pas comme ça. Hein. Il faut d'abord mettre le pied dans l'eau. Quand vous mettez le pied dans l'eau, alors les eaux s'écartent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est le courage intérieur qui est important. Une chose étrange, c'est la première fois qu'il passe un fleuve. Hein. Enfin, un fleuve de 8 ou 10 mètres de large, c'est pas énorme. Hein. Mais à la fonte des neiges. Bon, il y a beaucoup d'eau, là. Hein. Quand il y a un beau courant. Bon. Et donc, on passe le Jourdain d'une manière extraordinaire. Mais on l'a passé à gué, figurez-vous. Parce qu'il y avait des pierres. Et on s'est mis sur les pierres. Et c'était d'abord les prêtres avec l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance. C'est une procession. On vous fait de ce passage une procession. Ça vous dit quoi, ça? Ça vous dit que les années suivantes, quand on sera installé à Jérusalem, on fera la procession dans le temple. Et à ce moment-là, on aura des trompettes. Et si vous regardez bien le texte du chapitre 6e, c'est-à-dire de la destruction de Jéricho, vous verrez que c'est tout un poème. Le poème, oui, mais c'est le baratin du guide, hein, qui sur place vous dit, ben, ce que vous avez vécu ici, vous allez le vivre quand vous irez à Jérusalem. Et vous verrez, dans le temple, on fera des tours du sanctuaire, on fera toute une procession, et les trompettes sonneront. Il mêle à son récit, qui est une sorte de mémoire du passé, ce qui se passe dans la commémoration à Jérusalem quand on sera à l'époque où on commence à raconter l'histoire, c'est-à-dire au 7e siècle. Et donc, il y a dans ce texte toute une histoire. Le texte est lui-même une histoire. Et il ne faut pas le prendre comme un texte tout d'une pièce, mais nous rendre compte qu'il y a une profondeur de champ. Mais nous verrons cela la fois prochaine, et nous nous interrogerons sur le but général, alors, de ce livre de Josué, qui, vous en rendez bien compte, va mettre en évidence le cadastre d'Israël. Au fond, c'est ça qui est important. C'est la distribution des tribus sur le territoire d'Israël au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est important. Verrons ça la fois prochaine. Les questions sont toujours les bienvenues. Il y a un casier qui est fait pour ça.